Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Capot Diamant et Curium. Au programme, Freda Linton, une espionne très discrète. Et Cupidon est un chimiste. Bonne écoute.
Freda Linton, une espionne très discrète, un texte de Stéphanie Cabre, paru dans la revue Capot Diamant, printemps 2022, numéro 149. Freda Linton est l'une des rares femmes accusées d'espionnage dans l'affaire Gouzenko. Proche du député et espion Fred Rose, cette Montréalaise est présumée avoir relayé des informations très confidentielles. Elle aurait aussi participé au recrutement de nouveaux agents. Son parcours est une invitation à un jeu de pistes digne d'un polar de la guerre froide. 19 mars 1946. 5 jours après l'arrestation de Fred Rose, une secrétaire de la Montreal Shipping Company quitte précipitamment son bureau après avoir reçu un appel téléphonique. Son attitude étrange surprend ses collègues. Ce jour-là, Freda Linton disparaît sans laisser de traces. Le 22 juillet 1946, un mandat d'arrêt est justement lancé à son endroit dans le cadre de l'affaire Gouzenko. Elle ne refera surface que 3 ans plus tard à Montréal pour se livrer à la Gendarmerie royale du Canada, GRC. Une étrange libération. Le 11 avril 1949, lorsqu'elle se rend de son plein gré à l'inspecteur William Brady, chef des enquêtes judiciaires à la division C de la GRC, Freda Linton est une femme lassée par ses 3 années de cavale. À son retour, la fugitive est en outre enceinte de 7 mois. Le lendemain de son arrestation, les journalistes découvrent, à son arrivée au tribunal de Montréal, une trentenaire raffinée qui ne laisse personne indifférent. Chic et élégante, âgée de 33 ans, elle est souvent décrite dans les journaux de l'époque comme une brunette de petite taille, aux lèvres fortement soulignées d'un rouge écarlate, le nez chaussé d'une paire de lunettes légèrement teintées et qui s'avance à la barre d'un pas déterminé, selon la presse, datée du 12 avril 1949. Pour sa défense, Freda Linton a choisi l'avocat de Fred Rose, Joseph Cohen. Il faut dire que Cohen connaît bien le dossier. Freda Linton comparaît pour les mêmes raisons que le député communiste. Selon le rapport de la commission royale Kellogg-Taschereau, elle aurait violé la loi des secrets officiels et conspiré aux côtés de Fred Rose entre le 3 juin 1939 et le 6 septembre 1945 pour obtenir les secrets du RDX pour Research Department Explosive. Durant ses premiers interrogatoires, Freda Linton nie toute implication et obtient gain de cause. Elle est libérée sous cautionnement de $5,000 au printemps 1949, et ne sera plus inquiétée, alors que Fred Rose a été condamné à 6 ans de pénitencier 3 ans auparavant. La plainte la visant sera même retirée par la suite par la couronne, officiellement par manque de preuves. Officieusement, les autorités l'auraient libérée juste avant les élections fédérales, pour ne pas heurter l'électorat travailliste, comme le souligne le maire de Montréal, Camillien Houde, dans Le Devoir du 22 juin 1949. Freda Linton explique, le 3 mai 1949, à la presse, les raisons de sa fuite en 1946. « J'avais cru, dit-elle, en face de la campagne insidieuse qui se faisait alors, qu'il était préférable pour moi de quitter le pays. Mais en aucun temps, je n'ai craint de faire face à la justice de mon pays et de subir un procès. Plus tard, lorsque j'ai constaté que l'atmosphère était plus sereine et plus propice pour y subir un procès juste et équitable, je me suis livrée et voilà où en sont rendues les choses. » Alors qu'elle est citée à plusieurs reprises au cours du procès de Fred Rose et des autres agents, Freda Linton est restée un mystère durant toutes ces années pour les enquêteurs. Activement recherchée sur tout le continent, elle raconte s'être cachée à Montréal. On retrouve pourtant sa trace aux États-Unis. À l'image du grand absent des procès Gouzenko, Sam Carr, l'espion torontois qui s'est, lui aussi, enfui de l'autre côté de la frontière, avant d'être arrêté et condamné en 1949. Après avoir quitté son appartement du 109 avenue Laurier-Ouest à Montréal, en emportant toutes ses affaires, Freda Linton vit dans la clandestinité de 1946 à 1949. Selon certains membres de sa famille, elle aurait été aidée par le Parti communiste. Le FBI retrouve sa trace dans la région de Seattle. Mariée à un marin, elle a adopté le nom de famille de son nouvel époux américain, Alexander. Les services américains, qui ne sont pas en mesure de l'interpeller, décident de révéler la véritable identité de son épouse à son mari. Quand il apprend, en pleine Amérique pré-macartiste, que sa femme est une espionne communiste, William Alexander décide de l'abandonner. Traqué, enceinte, avec nulle part où aller, Freda Linton Alexander décide de rentrer chez elle à Montréal. Fin de la cavale. Vous écoutez Freda Linton, une espionne très discrète, un texte de Stéphanie Cabre, paru dans la revue Capot Diamant, printemps 2022, numéro 149. Nom de code, Freda. À l'image de la fameuse espionne allemande Ursula Kuczynski, agente de l'ancêtre du GRU, une puissante agence militaire rivale du KGB, la Direction générale des renseignements de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie, ou GRU, défend l'État, alors que le KGB défend le parti. Freda Linton est un caméléon qui n'en est pas à son premier changement de nom. Quand elle voit le jour, le 6 mars 1916, à Montréal, de parents juifs d'origine polonaise, elle se nomme Freda Lipschitz. Par la suite, elle changera son patronyme en Linton, puis Alexander. Sur certains documents officiels de la couronne, le nom de Fritzi Linden est également mentionné. Dans les notes du colonel Nikolai Zabotin, attaché militaire de l'ambassade soviétique à Ottawa et chef du réseau d'espionnage canadien, elle est décrite sous son nom d'agent, Freda. Dans les années 1930, les Soviétiques cherchent activement à rallier à leur cause les Ukrainiens ou les Polonais établis au Canada. Freda Linton est la candidate idéale pour intégrer ce vaste réseau d'agents dont les membres sont souvent recrutés parmi les étudiants, instituteurs, scientifiques, fonctionnaires ou encore employés de bureau comme elle. Les agents canadiens sont formés et conditionnés dans des cercles d'études communistes. Le but est de les familiariser à la collecte d'informations ou encore au transfert de documents sensibles dans la plus grande discrétion. la qualité essentielle requise pour faire partie du réseau est d'avoir foi en l'idéologie communiste ou d'être au moins sympathisant. C'est le cas de Freda, membre du Parti communiste entre 1935 et 1936 et favorable au régime soviétique. Trilingue, parlant hébreu, anglais et français, cette discrète sténodactylo peut rendre de grands services. Selon Igor Gouzenko, Freda aurait servi de courrier pour acheminer les informations à Fred Rose et à l'ambassade russe. Elle aurait également été chargée de recruter de nouveaux membres pour le réseau d'espions. Ce qui frappe le plus quand on se penche sur les archives de la commission royale Kellogg-Taschereau et les documents des services secrets britanniques, c'est que le destin et les actions de cet employé de bureau semblent toujours liés à ceux des hommes impliqués dans cette vaste nébuleuse d'espionnage. Déterminée et discrète, Freda Linton a su tisser un réseau de contacts extrêmement influent. Du Bureau international du travail à l'Office national du film, les espionnes communistes en mission à l'époque sur le continent sont souvent utilisées par les hommes du parti pour leur charme et leur capacité à pouvoir collecter des informations secrètes. La plupart du temps réduite à un rôle de séductrice. Cette tactique courante des services d'intelligence de l'Union soviétique repose souvent sur le recours au chantage, arme redoutable pour obtenir des faveurs ou encore compromettre ses cibles. Les espionnes étaient d'ailleurs bien souvent sélectionnées selon leur apparence physique. Elizabeth Bentley, espionne communiste américaine qui opère à la même période que Freda, est décrite par le New York Journal American, quotidien fortement anticommuniste, comme une New-Yorkaise blonde aux yeux bleus, galbée et qui savait attirer les secrets de ses sources. Cette dernière fera d'ailleurs défection, comme Gouzenko, et deviendra par la suite une informatrice du FBI. La touche arme de Fred Rose, Freda Linton, ne semble pas déroger à la règle. Avant la Montreal Shipping Company, elle a notamment travaillé pour le Bureau international du travail, un organisme où elle a côtoyé des fonctionnaires haut placés et a pu établir des contacts stratégiques. Selon le compte-rendu des suspects de l'affaire Gouzenko, Freda Linton est ensuite en poste à l'Office national du film, ONF, à Ottawa, du 22 mai 1944 au 30 septembre 1945. Pendant 6 mois, elle est la secrétaire de John Grierson, commissaire du gouvernement à l'Office national du film, ONF. À l'époque, Grierson, le père du documentaire britannique, est un homme influent, aux idées progressistes et souvent précédé d'une réputation sulfureuse. En 1942, le FBI s'intéresse de près à lui et l'accuse d'héberger des sympathisants communistes dans ses locaux. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, souligne que certains de ses films ont l'air d'avoir été écrits et dirigés avec un point de vue pro-soviétique. Voici une note de l'ONF datée du 28 juin 1946 qui atteste de l'embauche de Freda Linton. Freda Linton a été interviewée en mai 1944 et a été considérée comme une candidate probable pour un poste dans la distribution en raison de son expérience avec le Bureau international du travail. À l'époque, cependant, nous n'avions pas de poste disponible dans la distribution et c'était suggéré que pendant une période temporaire, Mademoiselle Linton pourrait travailler comme secrétaire de M. Grierson, Ellipse. Il a été convenu qu'elle devrait passer environ 6 mois avec M. Grierson et, à la fin de cette période, il s'arrangerait pour qu'elle se rende à la distribution. C'est d'ailleurs ce qui arrive en avril 1945. Le gérant de la distribution de l'ONF envoie Fred Allington à Washington pour remplacer leur représentant sur place, parti à San Francisco. Tout cela sous la supervision de John Grierson. Freda, soudainement promu à la distribution, va passer 2 mois dans la capitale américaine. Un voyage de travail qui tombe à point nommé. Le GRU est à la recherche de nouveaux agents à l'extérieur du Canada. Fred Rose doit approcher le généticien sympathisant communiste Arthur Steinberg à Washington. Il charge Fred Allington d'établir le contact sur place. Sa confiance en elle est très grande. Leur relation semble d'ailleurs dépasser le stade de la simple collaboration, comme en atteste l'enquête menée par la commission Kellogg-Taschereau. Vous écoutez Fred Allington, une espionne très discrète, un texte de Stéphanie Cabre, paru dans la revue Capot Diamant, printemps 2022, numéro 149. Fred et Freda, couple d'espions. De mars 1944 à juin 1946, la propriétaire d'un appartement au 30 avenue Beechwood à Ottawa, Madame Gottman, assure avoir loué son bien à Fred Rose. Toutefois, à 2 reprises, la propriétaire révèle aux enquêteurs qu'une certaine Freda Linton a appelé pour un problème de réparation de serrure. Cette déclaration corrobore le fait que Freda Linton et Fred Rose entretenaient une liaison, comme l'avance Mary Lee Weisbord dans son ouvrage « Le rêve d'une génération ». Les deux personnages s'affichent dans des dîners mondains, comme ceux organisés par Raymond Boyer, autre acteur clé de l'affaire Gouzenko. Dans les notes du carnet du colonel Zapotine, Freda est même décrite comme une « lady friend » du professeur. Freda Linton profite de ses relations pour faire remonter des informations aux Russes. Ainsi, Gouzenko atteste qu'il a rencontré Freda Linton dans la maison du major Sokolov à Ottawa à l'automne 1943 et que le jour suivant, Sokolov écrivait au colonel Zapotine pour lui livrer des secrets relayés par Freda. On peut rapprocher ce mode opératoire et celui de l'espionne américaine Leontine Cohen, qui travaillait également pour le compte de l'Union soviétique. Sous son nom d'agent, Lona, Léontine a servi de boîte aux lettres au physicien Theodore Hall, collaborateur du projet Manhattan à Los Alamos. Sans connaître tous les détails, il ne fait pas de doute que Freda Linton a été une alliée d'importance pour Fred Rose, qui avait de grandes ambitions à son égard. Ainsi, la pièce à conviction 37, subtilisée par Gouzenko, indique « Research Council, rapport sur l'organisation et le travail. Freda au professeur par l'intermédiaire de Grierson. » Une phrase énigmatique qui révèle la volonté des services russes de lui donner de nouvelles attributions auprès de Raymond Boyer. Selon Gouzenko, le GRU ne se satisfaisait pas de son travail à l'ONF entre 1944 et 1945 et cherchait à la faire entrer dans un ministère plus important avec l'appui de John Grierson. Lors de son interrogatoire devant la commission royale Kellogg-Taschereau, Grierson a toujours nié que la jeune fille lui ait demandé d'intervenir pour décrocher un poste au Conseil national de recherche auprès de Raymond Boyer. Selon lui, Elle semblait juste très ambitieuse et cherchait à obtenir une promotion. Exemptée de toutes les charges, Freda Linton ne reviendra jamais sur ces événements pour dévoiler ses réels agissements. Le 28 juin 1949, après ses années de double vie et de cavale, la mystérieuse Freda Linton accouche libre d'une petite Déborah à l'Institution du chemin de la Reine-Marie à Montréal. Elle repart ensuite aux États-Unis pour divorcer de son mari américain, William Alexander. En 1951, en pleine chasse aux sorcières et sans permis de travail valide, alors qu'elle est caissière dans un restaurant à Reno dans le Nevada, elle est arrêtée avec sa fillette. Elle omet en plus de mentionner aux policiers qu'elle a été membre du Parti communiste. Détenue par les autorités américaines de l'immigration à San Francisco, elles sont déportées par les États-Unis pour abus de titre de séjour. À 35 ans, Freda Linton est renvoyée avec son enfant au Canada à la fin mars 1951. Contrairement à Fred Rose, retourné en Pologne, Freda Linton reste en Amérique et coulera des jours plus tranquilles dans l'anonymat à Toronto. Des années plus tard, Freda aurait reconnu son erreur, admettant avoir confondu les intérêts de l'URSS avec ceux de la classe ouvrière canadienne, comme l'indique David Levy dans son ouvrage « Stalin's Man in Canada, Fred Rose and Soviet Espionage ». Stéphanie Cabre est journaliste et réalisatrice. C'était Freda Linton, une espionne très discrète, un texte de Stéphanie Cabre, paru dans la revue Cap au Diamant, printemps 2022, numéro 149.
Est un chimiste. Un texte de Sophie Mangado, paru le 16 janvier 2023 dans le magazine Curium. Dès le premier regard, les molécules de l'amour partent en vrille. Elles prennent le contrôle du cerveau, pour le meilleur et pour le pire. Votre cœur s'emballe, vous êtes rouge tomate, vous avez chaud, vous gloussez pour rien et un peu bêtement. Si vous parlez, c'est pour débiter un paquet de niaiseries. Une force supérieure a pris possession de votre centre de commande, la passion amoureuse. Rien ne sert de lutter, la réaction est chimique. Grâce aux techniques d'imagerie médicale, les régions et les mécanismes dans le cerveau sont maintenant mieux compris. Sans détenir la recette exacte, les scientifiques connaissent les ingrédients du cocktail moléculaire amoureux. Le vrai filtre d'amour. Phényléthylamine. De la famille des amphétamines, c'est la molécule qui produit l'euphorie grisante des premiers temps. Adrénaline et noradrénaline. Généralement produites en situation de stress, elles sont également responsables du grand frisson amoureux. Vous savez, cette excitation qui chamboule tout? Dopamine et endorphine. Elles stimulent les zones cérébrales associées au plaisir et elles procurent une sensation d'énergie, de puissance et d'excitation. Sérotonine. Au contact de l'être aimé, son niveau baisse, ce qui peut provoquer de l'anxiété et un sentiment d'obsession. Impossible de penser à autre chose qu'à ses beaux yeux. Vous vous demandez avec inquiétude si la dite personne pense à vous elle aussi. Cortisol. Parce que tout ça est bien trop intense, l'hormone du stress diminue pour donner un coup de pouce à l'organisme. Et l'ingrédient secret? Une molécule qui donne envie de tomber amoureux-amoureuse, qui décuple les sentiments et qui booste le désir? On en veut! Nouvelle star des molécules de l'amour, la kisspeptine fait tourner la tête des scientifiques depuis une vingtaine d'années. Elle opère dans le système limbique, la région cérébrale liée à des composantes importantes de la sexualité, comme le désir et la séduction. La kisspeptine est donc essentielle à la reproduction, mais pas seulement à ce niveau. Elle affecte aussi les zones du cerveau associées à l'attachement amoureux, a révélé une équipe de recherche de l'Imperial College de Londres. Malgré les apparences, le nom de la kisspeptine n'a rien à voir avec le baiser. Le laboratoire qui l'a découverte se trouve à Hershey, en Pennsylvanie, États-Unis, où sont fabriqués les fameux chocolats Kisses. Ce sont eux qui ont inspiré les scientifiques dans le choix du nom. Alors que leurs recherches portaient initialement sur le cancer, les scientifiques ont découvert par hasard le rôle de la kisspeptine dans l'alchimie de l'amour. Après le coup de foudre, le beau temps? Ce beau party chimique a une fin. Après 18 mois, les molécules de la passion diminuent progressivement pour disparaître après 3 ou 4 ans. Heureusement, une autre hormone vient à la rescousse de notre cœur, l'ocytocine. Surnommée l'hormone de l'attachement, elle favorise l'amour durable. Elle cimente notamment la relation en associant l'être aimé à des sentiments de réconfort et de bien-être. Ah! C'était « Cupidon est un chimiste », un texte de Sophie Mangado, paru le 16 janvier 2023 dans le magazine Curium.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vizevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Jocelyne Langevin à la lecture, Anne Hébert et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.